Bonjour à tous. Avec notre famille, vous le savez, on est franco-écossais. Et vous savez tous, je pense, ce qui s'est déroulé hier soir. Alors, je ne reviendrai pas dessus. Ou peut-être un petit peu, on verra tout à l'heure. Mais juste pour vous dire que souvent, en tant que famille, on s'est déplacé en Écosse, et notamment en voiture. Et lorsqu'on était sur la route, on se disait quasiment à chaque fois qu'on arrivait en Angleterre, après le bateau ou le tunnel, on montait en Écosse. Et pour un Écossais, l'Angleterre, ça sent pas très bon. Et quand on s'approchait de la frontière, on se disait, oh pétard, ça commence à sentir meilleur. Et quand on passait la frontière, qu'est-ce qu'on faisait? On ouvrait la fenêtre. Et on criait, et il y avait la bonne odeur de l'Écosse qui rentrait. Mais au retour, qu'est-ce qui se passait au retour? À l'opposé. Ça sentait bon, et une fois qu'on arrive à la frontière, on disait, ça sent de moins en moins bon. On arrivait en Angleterre, et là, on ouvrait les fenêtres, et on criait, c'est nul, bouh, on commençait à siffler. Donc, quand on était en voyage, il y avait deux possibilités. Soit on s'approchait de l'Écosse, soit on s'en éloignait. Et c'est un petit peu le thème que j'ai envie de développer ce matin, mais bien sûr pas par rapport à l'Écosse, je vous rassure, par rapport à Dieu. Et que dans notre vie de tous les jours, soit on s'approche de Dieu, soit on s'éloigne. On va s'intéresser à 16 chapitres. Alors je vous rassure tout de suite, on va lire 15 versets. D'accord? Et je vais essayer de vous résumer tous ces chapitres. Ce qui est important lorsqu'on prend un texte ou des textes, il y a une phrase qui me marque beaucoup, c'est « un texte sans contexte est un mauvais prétexte ». Donc faisons un contexte. Donc 1 Samuel 1 jusque 12-25, c'est l'histoire donc de Samuel, qui est un prophète à la fin de son temps, c'est-à-dire il commence à être vieux, on verra tout à l'heure ses enfants, ils partent en live, comme on dit, donc il faut absolument qu'il se passe quelque chose, et on verra tout à l'heure ce qui va se passer. C'est le dernier chef, ou alors on l'appelle le dernier juge en Israël. C'est lui vraiment le leader. Lorsqu'on parle des juges, je ne sais pas si vous lisez le livre des juges régulièrement, mais il y a un schéma qui revient tout le temps. Ou un modèle. Le peuple pêche, donc il s'éloigne de Dieu. Dieu se met en colère, jugement de Dieu, et quasiment à chaque fois, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des peuples aux alentours qui viennent conquérir le territoire, donc des invasions. Ensuite, le peuple, il commence à se dire, c'est vrai qu'on n'est pas dans la bonne voie, donc il se repent. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, il les délivre. Et il les délivre souvent par le moyen d'une personne, qu'on appelait un juge. Alors regardez un petit peu ce modèle, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que ça ne vous rappelle pas le plan de Dieu pour nous les hommes? On est pécheurs, on s'éloigne de Dieu constamment. On mériterait quoi? Le jugement de Dieu. Et ce jugement, il est tombé sur qui? Sur Jésus, qui est notre libérateur, notre délivreur, oui c'est français. Et pour avoir accès auprès du Père, il faut se repentir. Alors retenez ce schéma, on reviendra dessus tout à l'heure. Donc, dernier chef, dernier juge, et il est découragé. Faillite de ses fils. Ses fils, je pense qu'il les a formés, il les a envoyés à différents endroits en Israël pour qu'ils suivent son chemin. Et qu'est-ce qu'ils font? Ce qui n'arrive plus du tout actuellement. Corrompus par l'argent. Ensuite, il a beaucoup de contacts avec Dieu et il y a le peuple qui vient, qui se repent devant lui et devant Dieu et qui dit, au fait, Sam, on voudrait un roi. Ben pourquoi? Vous m'avez moi, je suis le juge. Non, on voudrait un roi pour faire comme les autres peuples. Samuel dit, piano, je vais prier. Il prie, il parle avec Dieu et Dieu lui dit, accepte ça. Parce que c'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui rejette en demandant un roi. Et là, on va voir un dialogue entre Samuel et Dieu, et Samuel, il n'est pas du tout pour ça. Lui, il veut surtout pas de roi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se plier à la volonté de Dieu. Et premier point important, la volonté de Dieu doit être supérieure à notre propre volonté. Et Samuel l'avait compris. Au chapitre 12, il fait un discours d'adieu très émouvant, où il demande au peuple si il a été fidèle. Et le peuple lui dit, oui, Sam, tu as été fidèle. Et ensuite, vers la suite de cette demande, de ce discours, pardon, il va mettre Dieu en relief et surtout, il va tout rendre la gloire à Dieu en accomplissant notamment un miracle. Autre élément, donc on a un prophète à la fin de son temps. Mais on a également un jeune roi prometteur. Un jeune roi qui était très bon à cache-cache. La preuve, au chapitre 9, on voit qu'il a réussi à retrouver des ânes dans un pays désertique. Il faut être très fort. Et également au verset 10, au chapitre 10, pardon, lorsque le peuple demande à mettre un roi en place, il va se cacher derrière des bagages. Mais là, il n'a pas trop réfléchi, c'est qu'il est un peu plus grand, donc il a juste sa tête qui dépasse, et les gens vont le trouver. Au chapitre 10, verset 9, c'est dit clairement qu'il reçoit l'Esprit de Dieu. Donc il est, pour l'instant, proche de Dieu. Il devient roi d'Israël, chapitre 10. Et ce qui est marquant, c'est qu'il est critiqué dès le début. On peut même lire au chapitre 10 que des gens le méprisèrent et lui offrirent aucun cadeau. Le jour où vous engagez dans un ministère, dans quelque chose pour Dieu, si vous n'êtes jamais critiqué, il faut parfois arrêter, c'est que ce n'est pas fait pour vous. Le fait d'être critiqué au début, c'est souvent un bon signe. Pourquoi ? Puisqu'on se met à genoux et on remet toute la gloire à Dieu, et on apprend l'amour envers les gens qui nous critiquent et des fois qui ne nous aiment pas. Et aussi et surtout, c'est pour ça qu'il a été roi, c'est pour être le chef des armées. Et au chapitre 11, on voit qu'il commence à avoir de grandes victoires militaires. Donc bilan, un prophète à la fin de son temps et un jeune roi prometteur. C'est ce que John Fitzgerald Kennedy appelait un momentum, c'est-à-dire un moment très important dans la vie. Alors je ne sais pas si ce matin, ou de la semaine passée ou de la semaine prochaine, dans les semaines qui viennent, vous avez des grandes décisions à prendre, mais c'est très souvent dans ces grandes décisions, dans ces périodes de transition, que on doit se rapprocher de Dieu, et si on ne le fait pas, on se rend compte assez vite, généralement, si on est honnête, et c'est surtout dans ces grands moments qu'on peut voir si on a une bonne relation avec Dieu ou pas. Et troisième point de cette introduction, donc le chapitre 13, comment agir ou réagir? Je vous rappelle, un prophète à la fin de son temps, un jeune roi prometteur, les Philistins ont envahi le pays, ils massacrent des gens, ils volent les gens, etc. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien on voit qu'ils vont faire une révolte. Et cette révolte, donc j'ai indiqué qu'elle est peut-être peu réfléchie, vous allez voir pourquoi. Jonathan, le fils de Saül, qui devait avoir 15-16 ans à ce moment-là, c'est lui qui s'est révolté en premier. Il a fait chuter une stèle des dieux philistins. Ça aboutit à ce qu'on appelle une guerre asymétrique. C'est quoi une guerre asymétrique? Ça arrive très régulièrement, même dans le monde actuel, en Syrie par exemple. C'est des gens qui sont inférieurs en nombre et en armes qui se battent contre des gens qui sont supérieurs en nombre et en armes. Non pas c'est une guerre asymétrique, mais les Hébreux vont se retrouver serrés et encerclés. Beaucoup de peur, de pessimisme vont s'élever. Et Saül, il avait 3000 soldats au début. Et parmi ces 3000 soldats, il y en a beaucoup qui vont partir. On verra tout à l'heure combien. Et il va commencer à paniquer, puisque Samuel va lui dire, écoute, il faut que tu offres un sacrifice, mais t'attends que je revienne. Et face à la peur, le pessimisme de ces hommes et de lui-même, Saül, il va paniquer, il va offrir le sacrifice. Et il va commettre une première faute. Vous vous rappelez Samuel, volonté de Dieu supérieur à sa propre volonté. Saül, contraire. C'est ma volonté, j'ai peur, mes hommes y partent, j'ai plus confiance en Dieu, donc je... Il se dit dans la Bible, il se fait violence pour accomplir l'Holocauste. Et comme par hasard, à ce moment-là, qui est-ce qui revient? Samuel. Troupe de choc. Lorsque j'étais dans la marine, un soir, on allait manger au mess. Et on était donc plusieurs alignés, et d'un coup, le cuisinier nous a dit « Écartez-vous ». Ah non, on s'est écarté. Et là, il y a des gens, ils étaient une petite dizaine, ils sont arrivés, maquillage force spéciale, pour manger. Et en passant, ils nous ont dit « Excusez-nous, on part en mission ce soir, donc on doit manger vite ». Et il aurait fallu voir nos têtes à tous, on était là comme ça. J'ai regardé passer, des gens costauds, tous maquillés, ils partaient en mission, c'était pas un entraînement, c'était une vraie mission. Et souvent, les troupes de choc, dans les différentes armées, elles ont une réputation et il y a beaucoup de respect. Et dans les troupes de choc, les Philistins, ils excellaient. Ils avaient des hommes qui étaient nés pour tuer et brillants pour tuer. Donc on comprend pourquoi les Israéliens, les Israélites avaient peur. Et troisième élément, et on voit là toute la tactique des Philistins, ils se sont dit, on a envahi les Israélites. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les empêcher de se révolter un jour? Tuer les nouveau-nés? Non. On va faire quelque chose de plus intelligent, on va les empêcher de se fabriquer des armes. Très malin, les Philistins. Et donc, au moment de la révolte, c'est pour ça que je dis que c'est une révolte pour réfléchir, tout simplement puisque il n'y a que deux personnes qui avaient des armes, Saül et Jonathan. Donc on est dans une guerre d'usure, une guerre de nerfs, et souvent dans ces moments de tension, d'épreuves dans la vie, c'est là qu'on voit notre réaction et si elle détermine ou pas notre relation avec Dieu. Donc Samuel d'un côté, volonté de Dieu supérieure à sa propre volonté, je m'approche de Dieu, et Saül, volonté des hommes supérieure au regard de Dieu, je m'éloigne de Dieu. On va s'intéresser à deux personnages centraux, père et fils. Et tout au long de ces chapitres, à partir du chapitre 12 au verset 16, à l'arrivée de David, ces deux personnages, ils vont avoir deux voies complètement opposées. Et je vous invite à prendre donc 1 Samuel au chapitre 14. Ah, pourquoi j'ai choisi ce passage? C'est parce que ce passage représente un petit peu la rampe de lancement de la fusée qui a été construite dans notre introduction. Tout le monde suit? D'accord? Et on va voir qu'une fois que la fusée est partie, s'il n'y a pas de repentance, on s'enfonce. Elle retombe. Donc on va lire les 6 premiers versets. Donc un plan en 4 parties, d'accord? C'est juste pour la forme. Allez, 6 premiers versets. Un jour, Jonathan, le fils de Saül, dit à son écuyer, « Viens, allons attaquer ce poste des Philistins qui est en face, de l'autre côté de la gorge. » Mais il ne prévint pas son père. Saül se trouvait alors à la sortie de Gibéa, avec ses quelques 600 hommes, sous le grenadier de Migron. Il y avait aussi comme prêtre portant l'éphod, Aïa, fils d'Aïtoub, frère d'Ikabod, le fils de Phinéas et petit-fils d'Élie, qui avait été prêtre de l'Éternel à Silo. Personne n'avait remarqué que Jonathan était parti. Dans le défilé que Jonathan cherchait à franchir pour atteindre le poste des Philistins, se dressaient de part et d'autre deux pointes rocheuses appelées Botsets et Séné. L'une d'elles s'élève au nord en face de Micmash, et l'autre au sud en face de Geba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et attaquons le poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il en notre faveur, car rien ne l'empêche de sauver par un petit nombre aussi bien que par un grand. » Verset 1, premier élément important, « Viens, allons attaquer. » Essayons de s'imaginer la scène. Il fait 48 degrés à l'ombre. D'accord? Ils vivent dans la peur, dans le stress, ils se cachent dans des grottes. Les Philistins rôdent autour et eux, ils sont armés et ils savent servir de leurs armes. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire les Israélites? Ils vont se dire, on va faire des actions commando pour récupérer des armes. Sauf que, comme on l'a vu, Saül, il commence un petit peu à chuter en termes psychologiques et surtout spirituels. Donc ces hommes, ils n'ont plus trop confiance en lui. Donc dans ces moments-là, c'est là qu'on voit les vrais leaders. Vous avez Jonathan, qui va aller voir son écuyer, qui va dire « Allez mon gars, on va y aller. Il faut qu'on se bouge, c'est le moment. » Verset 2, il ne va pas prévenir son père. On peut dire « Mais pourquoi il ne va pas prévenir son père qui était le roi, le chef ?» Je pense que c'est parce qu'il savait et il se rendait compte de la déchéance spirituelle de son père et qu'il ne voulait pas qu'il y ait des fuites, surtout qu'à l'époque, les espions des deux camps, ça existait à foison. Personne n'avait remarqué que Jonathan était parti. Quel professionnalisme! Un camp militaire, une base, c'est sacré. Si vous ne savez pas tout ce qui se passe, si vous ne savez pas qui est là, à quel endroit, à tel moment, il y a un problème. Surtout lorsqu'on est en guerre. Et au verset 6, il se redonne courage, se redonne espoir, viens et attaquons le poste. Et il va dire que le poste, il est en haut d'un défilé, d'accord? En haut de plusieurs pentes. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, le plus dur des combats, lors du débarquement, c'était en Normandie, à ce qu'on appelait la pointe du Hoc. Et la pointe du Hoc, c'était une paroi rocheuse de plus de 100 mètres, avec les Allemands au-dessus. Et les Alliés se sont dit, on va être malin, on va les bombarder toute la nuit, comme ça nos hommes ils vont arriver en bas, ils vont monter et ils vont pouvoir avancer. Sauf que les bombardements ont été inefficaces. Ils ont quasiment rien bombardé. Donc, les Américains et les Anglais, c'est les Américains, c'est les troupes de choc américaines, ils sont arrivés. Et bien sûr, le temps qu'ils montent, la plupart se sont fait canarder. Et surtout qu'à l'époque, certains ont essayé de monter, on va dire, à l'escalade, mais il n'y avait pas de protection, puisque personne n'était arrivé en haut pour mettre les protections en place. Donc, ils tiraient des grappins. Le problème, c'est que les grappins, une fois qu'ils sont accrochés en haut, on est sûr, on commence à grimper. Sauf que les gens en haut, les Allemands, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, ils allaient, ils découpaient les grappins. Et bien sûr, ils attendaient que les Américains aient bien monté. Et par un pur miracle, il y a eu, je ne sais plus combien de pourcentage de pertes, mais ils ont réussi à prendre cette hauteur. Des rochers escarpés, observatoire naturel sur la vallée. Encore un point ascendant positif pour les Philistins. On observe. L'année dernière, on a fait plusieurs paintball pour des enterrements de jeunes garçons. Et à chaque fois, les paintballs, c'est la même configuration. Il y a une cuvette, il y a une équipe en bas, une équipe en haut. Et quasiment à chaque fois, l'équipe en bas, elle se fait massacrer. Et on ne veut jamais jouer en bas. Ben là, c'est pareil. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en bas, on est constamment en train de regarder autour de nous. On ne peut pas se cacher. Puisque si on se cache par rapport à un côté, l'autre côté nous voit. Alors que lorsqu'on est en haut, on met en place la stratégie, on attend et on s'amuse. Alors ce que je voulais faire ce matin par rapport à Saül et Jonathan, c'est montrer 8 caractéristiques pour chacun qui témoignent qui s'approchent ou qui s'éloignent de Dieu. On va commencer par Jonathan par rapport à ces versets. Première caractéristique qui montre qu'on s'approche de Dieu, c'est l'audace de la foi. Est-ce que ça rappelle un titre de livre à quelqu'un? L'audace de la foi. George Muller, qui, à Bristol, s'est occupé de plus de 120 000 orphelins. Sa technique était toute simple. Il n'a jamais demandé d'argent, alors qu'il est parti de zéro. Tous les matins, il passait 3 heures à prier. Et l'argent venait. Alors au début, c'était tout léger, tout simple, mais ça a commencé à augmenter, et à la fin de sa vie, il s'était occupé, il avait offert une éducation chrétienne à 120 000 orphelins. L'audace de la foi, se lancer. Et l'audace de la foi, surtout, malgré le doute. Lorsque j'étais en terminale, on a eu un sujet de bac blanc, en philo, qui était douter, virgule, est-ce parvenir à une première certitude? Et moi, pour rigoler, j'avais marqué « j'hésite », 3 petits points. Et je m'étais dit « est-ce que je vais rendre ça ou pas ?» Et puis vu que j'avais fini en 3 minutes, les surveillants sont venus voir « mais vous avez déjà fini ?» J'ai fait « oui, oui, oui ». Alors j'ai montré ma copie, ils ont rigolé, mais ils m'ont dit « je sais pas si c'est une bonne idée ». Et puis après, moi, fier, je fais « ah, c'est bon, j'aurai une bonne note ». Et puis au bout d'une demi-heure, je voulais tout le monde écrire, et puis c'est long, 4 heures qu'on n'a rien à écrire. Je me suis dit, ah, ben, je vais quand même faire quelque chose. Donc, j'ai fait une copie normale, bateau, j'ai eu une sale note. Je suis allé voir le prof à la fin, j'ai fait, si j'avais rendu, j'hésite, vous m'auriez mis combien? Il m'a dit, je t'aurais mis 0, t'aurais dû refaire le bac blanc. Donc, ça va à peu près. L'audace de la foi malgré le doute. Deuxième élément, il est conscient du chemin difficile. Lorsqu'il se lance avec son écuyer ou son serviteur, il sait très bien où il va. Et il sait très bien que ça va être compliqué. Mais il a la foi. Parce qu'il faudra grimper et se battre. Alors déjà, se battre, c'est fatigant, mais grimper avant, avec, on verra tout à l'heure, les Philistins qui se moquent de vous, c'est pas évident. Matthieu 7. Le chemin étroit, la porte étroite. Souvent on l'oublie. Double, étroit. Et également, il y a un ouvrage qui est dans la bibliothèque de Watchman Nee, qui s'appelle « Le vrai serviteur de Dieu » et il donne les 10 commandements d'un vrai serviteur de Dieu. Et le point numéro 8, c'est « Un vrai serviteur de Dieu est armé de la pensée de souffrir. » Jésus, il a énormément souffert psychologiquement, spirituellement. Il a dû être déçu des millions de fois par ses disciples, qui étaient de vrais cassos, hein, faut le dire, comme nous. Mais il savait qu'il devait souffrir, et encore plus à la croix, mais il a fait confiance. Troisième élément, la solitude. Et encore, le Watchman Nee, son 10e point, donc le 10e commandement, entre guillemets, d'un vrai serviteur de Dieu, c'est être intransigeant face à la vérité biblique. Si Dieu dit ça, que tout le monde dit le reste, on suit Dieu. Volonté de Dieu supérieure aux hommes. Et très souvent, lorsqu'on est catégorique sur la Bible, on se retrouve seul, ou très peu accompagné. Sans compromis à l'égard de la vérité. Et ça, c'est John Stott qui dit toujours, avec Dieu, on a toujours la majorité. Maintenant, par rapport à Saül, ces versets 1 à 6. Quelques 600 hommes. Il est passé de 3000 à 600. Alors déjà, à 3000, il se battait contre, on ne sait pas exactement les forces philistines, mais c'est marqué une multitude. Donc au moins 10 fois plus nombreux. Donc là, il se retrouve à 600 hommes. Alors, comme c'était le nouveau juge, c'est lui qui appliquait la justice. Et il n'avait pas un palais pour appliquer la justice, c'était un grenadier. C'est un grand honneur d'appliquer la justice sous un grenadier. Et enfin, on reprend le verset tout à l'heure, personne n'avait remarqué que son fils était parti. Manque de sérieux, manque de professionnalisme. Et ça, on va le revoir dans plusieurs chapitres, enfin dans un chapitre plus tard, avec David. Pour rappeler, lorsqu'il va prendre un de ses meilleurs hommes, il va rentrer dans le camp de Saül, il va arriver dans la tente. Et son homme va dire, j'ai envie de le tuer, et David va dire, non, il a été choisi par Dieu, on ne va pas le tuer, on va prendre sa lance, je crois. Ils sont remontés, et là, ils ont appelé le camp pour dire, hé les gars, qu'est-ce que vous faites là? Et bien pareil, on retrouve ce même mauvais réflexe de Saül. Apparemment, il ne sait pas très bien gérer un camp militaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Peu de confiance en lui, surtout peu de confiance dans les autres, donc pour Saül. Et depuis sa faute avec Samuel, on voit qu'il y a véritablement un manque de crédibilité. Et souvent, les gens qui s'éloignent de Dieu, même si ça ne se voit pas tout de suite, les gens sages à côté, ils voient ça, ce manque de crédibilité, ce manque de tact. Ensuite, on peut voir l'hypocrisie. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on devient très vite hypocrite. Cette hypocrisie, c'est au verset 2, il va s'entourer de personnes compétentes. Un prêtre qui est là avec l'éphod pour choisir la volonté de Dieu. Alors on pourrait dire, c'est bien, au moins il l'a fait. Ouais, on va voir tout à l'heure un petit peu à quel point c'est hypocrite. Lorsqu'on vient au culte dimanche, est-ce que ça vous arrive des fois, et je me pose la question aussi, lorsqu'on sort du culte, de se dire, qu'est-ce que j'ai offert à Dieu ce matin? Est-ce que je suis venu pour offrir quelque chose à Dieu? Ou est-ce que je suis venu pour voir quelqu'un? Ou pour mon propre nombril? Ce peu de confiance, et surtout ce peu de crédibilité par les hommes, et l'hypocrisie, ça engendre de l'inaction. On devient mou, comme un caramel. En formation, une fois, pour être enseignant, il y a un formateur qui nous a dit, si un jour vous faites agresser par un élève, surtout, vous devez faire le mollusque, c'est-à-dire le mou. Si vous faites frapper, vous ne rentrez pas dans le jeu, vous faites le mou. Alors, ça ne m'est jamais arrivé, j'espère que ça n'arrivera jamais. Mais lui, ça lui est arrivé. Il s'est fait frapper et il a fait le mollusque. Et l'élève, qui était grand costaud, eh bien, il est retourné s'asseoir. Il n'a rien compris. Et souvent, le fait d'être mou, ça peut être bien dans certaines occasions, mais là, dans ce cas-là, l'inaction, c'est pas bon du tout. Et surtout, lorsqu'on est chrétien ou on se dit chrétien, on éteint l'esprit. 1 Thessaloniciens 5. Vous connaissez tous Fort Boyard? Oui, à peu près. Il y a un jeu que j'aime beaucoup, c'est lorsqu'ils sont avec les maîtres des temps, ils doivent enfoncer un clou. Et souvent, le but c'est de l'enfoncer, mais des fois ils tapent à côté. Et je me suis dit en préparant le message que cette image, elle pouvait s'appliquer le diable qui est en train d'enfoncer un clou, et un petit peu pour nous enfoncer nous. Et des fois, il tape à côté. Mais il tape à côté pas grâce à nous, mais parce que on s'approche de Dieu, on prie, et Dieu permet ça. Et si on dit rien, si on le laisse dans les meilleures conditions, eh bien, il va s'amuser. Et cette inaction, s'il n'y a pas de repentance, ça devient plus grave. On peut rentrer dans ce qu'on appelle un coma spirituel. Vous rappelez le schéma des juges, le modèle tout à l'heure? Péché, éloignement de Dieu, repentance, libérateur. Eh bien, s'il n'y a pas de repentance, on va s'entêter. Et l'entêtement pour un humain, c'est catastrophique. Déjà pour lui, mais aussi pour son entourage. On va lire les versets 7 à 12. Donc, rang 2, une triple réaction. Son serviteur lui répondit, fais tout ce que tu as à cœur, allons-y, je suis prêt à te suivre où tu voudras. Jonathan lui expliqua, écoute, nous allons nous faufiler jusqu'à ces hommes, puis nous nous découvrirons brusquement à eux. S'ils nous disent, halte, ne bougez pas jusqu'à ce que nous vous ayons rejoints, nous resterons sur place et nous ne monterons pas jusqu'à eux. Mais s'ils nous disent de monter jusqu'à eux, nous irons. Ce sera pour nous le signe que l'Éternel nous donne la victoire sur eux. Lorsqu'ils se montrèrent, tous deux aux hommes du poste des Philistins, ceux-ci s'écrièrent. Tiens, voici des Hébreux qui sortent des trous où ils s'étaient cachés. Et s'adressant à Jonathan et au jeune homme qui portait ses armes, ils leur crièrent, montez jusqu'à nous, nous avons quelque chose à vous apprendre. Trois réactions. La première, celle du serviteur. Verset 7. Mettez-vous à la place du serviteur. Peu de confiance, votre chef, Saül, est complètement à la rue. Et là, vous avez son fils qui vous dit, eh bien, on va tuer des hommes. Mais en gros, on risque de se faire tuer. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Fais tout ce que tu as à cœur. Je suis prêt à te suivre où tu voudras. Warren Wiersbe, qui écrit beaucoup de commentaires de la Bible, il dit toujours qu'un leader n'a pas besoin de conseils. Il a besoin d'encouragement. Quel encouragement pour Jonathan? Il prend un homme, sans doute qu'il avait confiance en lui. Cette confiance, elle se vérifie. Réaction de Jonathan lui-même. Il demande à signe. Ça vous rappelle quelqu'un, ça? Demander à signe la veille d'une bataille? Gédéon. Volonté de Dieu. Comment on fait, nous, pour la volonté de Dieu? On verra tout à l'heure. Et ensuite, les Philistins. Les Philistins, ils sont dans la provocation. Allez, montez, montez, on a quelque chose à vous dire. On veut vous tuer. Trois autres éléments qui témoignent, qui font part de quelqu'un qui s'approche de Dieu. Autorité. Le serviteur, il a dit oui, et il le suit jusqu'au bout. Il reconnaît la voix du maître. Malin, aspiré. Le puzzle se met en place. Et très important, il va chercher la volonté de Dieu. Il va tâtonner au début. Viens, il va dire deux fois, viens, on va aller se battre. Je préviens pas le papa. Et il va demander un signe. Et lorsque le signe se vérifie, ça va être la confirmation qu'il a trouvé la volonté de Dieu. Comment on fait? Petit problème. Non, c'est bon, c'est normal. C'est pour tout à l'heure. Allez, maintenant, on va se lire la fin. Verset 12, troisième partie du verset 12 au verset 15. Alors Jonathan dit à son serviteur, « Suis-moi là-haut, car l'Éternel donne à Israël la victoire sur eux. » Jonathan grimpa en s'aidant des mains et des pieds, et le jeune homme qui portait ses armes le suivait. Ils attaquèrent les Philistins qui tombèrent sous les coups de Jonathan, tandis que le jeune homme les achevait derrière lui. Ils massacrèrent ainsi une vingtaine d'hommes sur un espace de quelques mètres carrés. La panique se répandit dans le camp philistin, elle gagna toute la région et toute l'armée. Les avant-postes et la troupe de choc furent terrifiés à leur tour. De plus, la terre se mit à trembler, Dieu lui-même sema la panique parmi eux. Une triple confirmation, celle des Philistins, une confirmation verbale. Allez, venez les gars, on va rigoler, on va vous tuer. Deuxième élément, et je pense qu'ils avaient préparé une belle embuscade à arriver en haut. Verset 13-14, confirmation physique. Dès les premières secondes du combat, la victoire est quasiment assurée. Lors d'une grande bataille en 1415 à Azincourt, l'armée française, fière d'elle-même, sûre d'elle-même, un peu comme en rugby, elle s'est dit « On est les plus beaux, on est les plus forts, on va battre les Anglais. » Il y avait 40 000 Français, 6 000 Anglais. Et les Français étaient beaucoup mieux armés. Ils avaient des chevaliers, armures imposantes, boucliers. Donc ils ont foncé dans le tas. Sauf que ils sont tombés sous des Anglais malins, ce qui est très rare. Et les Anglais malins, ils avaient prévu, en fait, ils étaient sur deux collines, et au milieu, il y avait la vallée. Et dans la vallée, il n'avait plus la veille, donc il y avait de la boue. Et donc les chevaux français, très fiers, ils sont descendus, et ils ont commencé à s'embourber dans la boue. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Anglais? Ils se sont mis autour, ils ont pris leurs arcs et leurs flèches. Terminé. Le début d'une bataille signifie souvent et donne le glas pour la fin de la guerre. Et enfin, troisième confirmation, la confirmation spirituelle. Dieu sema la panique parmi eux. Il y a un chant que j'aime beaucoup, c'est le 710, je crois, dans Jeanne 2 ou 3. Si le Seigneur combat pour vous, qui se lèvera contre vous? Et souvent, là, quand on voit l'image de Jonathan qui fonce dans le tas, entre guillemets, qui blesse, et derrière, le serviteur l'a juste achevé, et bien souvent, je ne sais pas pour vous, mais ça me rappelle que quand on remet quelque chose, un projet à Dieu, vraiment sincèrement, avec tout notre cœur, il nous devance. Et souvent, il fait quasiment tout le travail. Et là, il faut faire attention, c'est ne pas prendre la gloire. Commandement, Moïse, tu ne voleras point. Alors souvent, on se dit, à part voler un bioman quand j'avais 5 ans, je n'ai jamais volé. Et combien de fois on vole la gloire de Dieu ? Lorsque la gloire lui revient et on la prend pour nous. Ou combien de fois on vole en donnant, ce mois-ci, je vais attendre la fin du mois, je vais donner tant d'euros. On vole Dieu quand on fait ça. Donc, les trois derniers éléments pour quelqu'un qui se rapproche de Dieu. Il cherche, il trouve et surtout il applique la volonté de Dieu. Vous faites toute la différence entre chercher, trouver, appliquer. C'est trois choses complètement différentes. Mais nous, comment on fait lorsque on veut chercher la volonté de Dieu? Déjà, c'est un impératif. C'est une promesse. Il faut toujours avoir un caractère de serviteur. Règle de base. Ensuite, j'ai essayé de relever deux méthodes. La première, c'est la pensée convaincante. Et la deuxième, c'est la méthode des 5 S. La pensée convaincante, c'est quelque chose que Dieu va mettre dans notre cœur lorsqu'on lui appartient, qui peut venir d'un verset biblique, d'un moment de prière, d'événements, prédication, livre, cantique, de conseiller en parlant avec quelqu'un. Il ne faut surtout pas oublier qu'il faut toujours, mais toujours, réfléchir. Ne jamais se dire « Ah, je suis convaincu, c'est ça, terminé ». Vous connaissez peut-être cette histoire d'un jeune homme qui cherchait la volonté de Dieu quand il avait 20 ans et dit « Seigneur, je vais aller me promener aujourd'hui et j'ai envie que tu me montres là où tu veux que je sois missionnaire ». Donc il se promène et il tombe sur des déchets sur le sol à côté d'une poubelle et il y a un savane roll. Vous savez tout ce que c'est qu'un savane roll? C'est un gâteau, un petit gâteau. Un savane roll. Il se dit « Seigneur, merci, savane, je vais aller dans le Sahara, je vais aller en Afrique et je vais être un missionnaire ». 50 ans après, il a eu un ministère très bon, exceptionnel, par la grâce de Dieu. C'est une histoire, hein, c'est une blague. Hein. Enfin, une blague, vous verrez à la fin. Et il revient faire des conférences. Donc il fait des conférences et il raconte son histoire. J'ai trouvé un savane roll, je suis allé en Afrique, j'ai fait plein de convertis, etc. Et les gens, ils sont là, bravo, merci, c'est simple, vous êtes un modèle, etc. Et vous avez un petit garçon qui l'écoutait depuis le début. Et qui, à la fin, va le voir, il dit « Monsieur, je peux vous parler ?»« Oui, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux apprendre de moi ?» Et le petit garçon, il regarde, il fait « Monsieur, vous avez trouvé un déchet de savane roll par terre, c'est ça ?»« Oui. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez trouvé un déchet de Mars ?» Faire très attention lorsqu'on demande des signes. Et surtout, tout remettre dans la prière. La base du visage, comme on dit chez les jeunes, c'est tout remettre dans la prière et dans la lecture de la parole. Et après, on peut s'entourer de conseillers, mais de gens fiables qui nous connaissent et que nous connaissons. Donc les dangers, chercher des signes partout, les rêves. Des fois, il y a des gens, ils essaient d'interpréter leurs rêves, ça peut être très 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 délicat et ça peut être très dangereux. Les sentiments, on s'enflamme. Les gens qui disent, tu es fait pour ça, vas-y fais ça, tu es fait pour ça. Dieu m'a dit que tu vas faire ça. Une amie comme ça, et quand elle était jeune, il y a une dame qui est venue la voir, qui a dit « Dieu m'a dit que tu seras missionnaire dans tel pays ». Et elle, au début, elle n'y croyait pas. Et puis elle y est allée, c'était catastrophique, elle est revenue, elle s'est dit « Mais pourquoi ?» Maintenant, la méthode des 5 S. Elle vient de Monsieur MacArthur. Et elle peut s'appliquer à nous aujourd'hui sans aucun souci. Si tu es sauvé, si tu as le Saint-Esprit, si tu es sanctifié, c'est-à-dire que tu as envie de t'approcher de Dieu, de progresser avec lui quotidiennement, si tu es soumis à Dieu, aux autres, aux autorités, et si tu souffres, persécution extérieure, intérieure, fais ce que tu veux. Et tu suivras forcément la volonté de Dieu. Septième point, pour quelqu'un qui s'approche de Dieu, l'attitude sera honorée par Dieu tôt ou tard. 1 Samuel 2, verset 30, « Celui qui m'honorera, je l'honorerai. » Le seul problème pour nous humains, c'est que l'échelle de temps de Dieu n'est pas du tout la même que nous. Celui qui m'honorera, je l'honorerai, ça peut être du jour au lendemain. Ou ça peut être 60 ans après, ou ça peut être après la mort de quelqu'un. Et huitième point, pour quelqu'un qui s'approche de Dieu, Il ne faut jamais oublier qu'on est dans un combat spirituel. Que dans notre cœur, on a un chien blanc, Dieu, un chien noir, le diable. Que le chien qui va gagner, c'est le chien qu'on va nourrir le plus. Maintenant, on va s'intéresser à la fin du chapitre, donc pas besoin de lire. La dépravation qui vient de Saül. Et cette dépravation, elle est véritablement manifeste et elle peut servir de modèle, dans le mauvais sens du terme, pour nous aujourd'hui. Donc les Israélites, grâce à l'exploit de Jonathan, ils vont gagner la bataille. Sauf que, pendant la victoire, Saül, il va se dire, mais pourquoi il y a du bruit? Pourquoi les gens ils se battent? Il va se rendre compte que c'est Jonathan et son écuyer qui sont partis. Et là, il va appeler le prêtre. Vous rappelez le prêtre qui s'entoure de personnes? Il va l'appeler, il va dire, viens, vas-y, faut qu'on voit la volonté de Dieu, donc tu prends l'Urim et le Toumim et on applique ça. Le prêtre, il arrive, il commence à le faire, puis il commence vraiment à paniquer. Ça lui fait, non, arrête, on y va. C'est vraiment insensé. Précipitation, manque de discernement. Ensuite, par rapport au serment insensé, il va dire, alors aujourd'hui on appellerait ça un délire, hein, il va dire, oui, vu qu'on va gagner aujourd'hui, qu'on a gagné, personne ne mange quoi que ce soit avant que j'ai vaincu les ennemis, alors que lui, il n'a absolument rien fait. Donc à la fin de la bataille, les soldats, ils sont affamés, 45 degrés à l'ombre, déjà 30 secondes, c'est compliqué, mais toute la journée à se battre, je ne vous raconte pas. Et ils vont arriver à un endroit où il y a beaucoup de miel. Il est dit dans la Bible, il y a beaucoup de miel. Ils vont arriver devant, comme ça, avec la langue pendue, ils vont dire, mais on ne peut pas manger. Et Jonathan, il va arriver, donc à la fin de la bataille, il n'y a pas Saül encore, et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va servir. Il y a les soldats, tu vas être condamné à mort, qu'est-ce qui se passe, etc. Et Jonathan, sa réaction montre qu'il est sage, il va dire, écoutez, Saül, il apporte le malheur sur notre pays, donc en gros, il n'est plus trop en règle avec Dieu. Et à ce moment-là, bien sûr, qui va revenir? Saül. Et Saül, en revenant, il va également agir dans la précipitation. Puisqu'il va se dire, on a gagné aujourd'hui, mais on peut encore plus gagner. Il y a encore des fuyards, on va les tuer. Et là, pareil, il appelle même pas le prêtre. Puisqu'il dit, on y va. Et là, le prêtre, chef, on ne demande pas à Dieu? Ah ouais, peut-être, ouais, on va le faire. Combien de fois on est comme ça, nous? On fonce tête baissée. Et après, on se dit, mais est-ce que j'ai prié avant? Est-ce que j'ai demandé à Dieu? Et là, ils vont demander à Dieu pour savoir s'ils doivent y aller ou pas. Et Dieu ne va pas répondre. Il va y avoir tout un processus pour montrer que s'il ne répond pas, c'est parce que, il ne veut pas répondre déjà, mais Saül va l'interpréter comme le fait qu'il y a eu un problème dans la journée. Et ce problème, ça va être le fait que quelqu'un ait mangé le miel alors que Saül l'avait défendu. Et quand on va découvrir que c'est Jonathan, Saül, il va clairement le dire, t'es condamné à mort, on va te tuer. Et là, heureusement, les soldats vont dire, mais attends, Saül, si on le tue, c'est lui le héros aujourd'hui, toi t'as rien fait, c'est lui. Donc quatre derniers éléments sur quelqu'un qui s'éloigne de Dieu, agit souvent dans la précipitation, avec un manque de discernement énorme, et ça à l'heure actuelle, ça peut se voir et ça guette tout le monde, en termes de choix de métier, choix de conjoint. La volonté de Dieu est bâclée, elle est cherchée vaguement, voire pas du tout. On ne la trouve pas, mais ça ne nous inquiète pas, et forcément on ne l'applique pas. Et le point le plus important, il n'y a pas de repentance. Et lorsqu'il n'y a pas de repentance, on s'entête. Vous vous rappelez Caïn et Abel? Ils offrent tous les deux des sacrifices, un avec des moutons, l'autre avec des fruits. Dieu il dit, l'odeur des moutons, c'est celle qui est agréable. Abel. Caïn, il a une réaction qui, je vais être jaloux, je vais ruminer, je vais m'entêter, et finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son frère. Il s'est éloigné de Dieu, clairement. La bonne réaction, même si je ne juge pas, hein, je pense que j'aurais fait pareil que lui, c'est se mettre à genoux, dire, Seigneur, d'accord, je me suis trouvé, maintenant, je vais suivre ta volonté. Regardez quelqu'un comme Pierre. Je te renierai pas. Non, t'inquiète, je suis un dur. Le coq, il chante. Qu'est-ce qu'il fait? Ah non, Seigneur, je ne t'ai pas renié, c'est pas de ma faute. Il s'est mis à pleurer. Il s'est repenti. Et là, un danger qui peut nous guetter, c'est ce que j'appelle la fausse repentance, comme c'est noté. Alors, qu'est-ce que c'est que la fausse repentance? C'est le fait, lorsque vous faites, on va dire, une bêtise, que on vous prend sur le fait accompli. Il y a deux possibilités. Soit vous êtes déçu et triste d'avoir été pris sur le fait accompli, soit vous êtes déçu et triste d'avoir péché, qui sont deux choses complètement différentes. Et souvent, on l'oublie, ça. C'est comme le petit garçon, peut-être vous connaissez cette histoire, qui avant un culte va jouer dans la boue. Sa maman lui dit, enfin, il va jouer dehors au foot, sa maman lui dit, tu te salis pas, t'inquiète maman, t'inquiète. Bien sûr, il revient 5 minutes après, il a de la boue de la tête aux pieds. Sa maman lui fait, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as fait? Et il fait, oh, maman, je suis désolé d'avoir fait ça. Elle lui fait, bon, allez, va te changer, et puis on part au culte. Il regarde sa mère, il fait, maman, mais j'aime trop la boue. Il était déçu d'avoir été pris par sa maman parce qu'il était sale, mais il voulait rester dans la saleté. Et troisième élément, et ça on va le voir par la suite des chapitres, jalousie et paranoïa avec David. Il va essayer de le tuer deux fois. Jalousie, paranoïa avec David, et là, ça va à l'encontre de la réaction de Jonathan, qui vu qu'il s'approche de plus en plus de Dieu, sanctification, lui, il va se rendre compte avec une sagesse, un discernement, que ce qu'il aurait dû avoir lui, c'est-à-dire l'héritier de Saül, c'est David qui va l'avoir. Et là, pour reconnaître ça, il faut de l'humilité et il faut beaucoup de sagesse. Conclusion. Je m'approche de Dieu. Audace de la foi. Je sais que c'est un chemin difficile. La vie chrétienne, c'est la vie la plus dure qu'on peut avoir. Mais c'est aussi la vie la plus belle. Et c'est la seule qui vaut le coup d'être vécue. La solitude, on peut se retrouver seul. Une certaine autorité. Inspiré, donc nous c'est par le Saint-Esprit. On cherche, on trouve et on applique la volonté de Dieu. Et juste un petit texte par rapport à ça, de MacArthur. Dieu ne nous dit pas qu'il comblera tous les désirs de ton cœur, mais que lui-même mettra ses désirs à lui dans ton cœur. Si tu te consacres à lui, il te donnera les désirs qui lui plaisent. Cette l'attitude honorée par Dieu tôt ou tard, vous vous rappelez tôt ou tard, il faut demander de la patience. Et ne pas oublier que c'est un combat spirituel et qu'il faut prier et demander du discernement. Je m'éloigne de Dieu, perte de crédibilité. Même si au début, des fois, les gens ne s'en rendent pas compte. Si on est honnête avec nous-mêmes, on s'en rend compte. Hypocrisie, inaction, endormi, coma, précipitation, manque de discernement. La volonté de Dieu est bâclée, voire même pas réfléchie ou cherchée. Mauvaise réaction face à la repentance, on s'entête. On pense à son nombril plutôt qu'à son cœur. Et après, l'événement qui vient à la fin souvent, c'est la jalousie, la paranoïa. Et on commence à se comparer. Le problème de la comparaison, c'est que c'est jamais bon. Soit on va se surestimer, orgueil, soit on va se sous-estimer. Et les deux sont très mauvaises. Donc où sommes-nous aujourd'hui? Dans ces moments de décision, de prise de décision, de réflexion. Est-ce que nous sommes en train de nous entêter dans notre bêtise, dans notre péché? Dans ce cas-là, on a besoin de repentance. Ou est-ce qu'on est plutôt proche de Dieu et on a besoin de lui, on se rend compte qu'on a besoin de lui tous les jours? Jérémie, dans ces deux versets, il parle du cœur. Notamment, Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Le cœur, c'est quand même un mystère pour l'humanité, enfin, je trouve. C'est la chose la plus fragile au monde, mais c'est aussi la chose la plus dure au monde. Si on a des moments de doute, parce que ça arrive à tout le monde, un collègue qui me disait il y a quelque temps, quand je parlais avec lui, « Mais tu doutes jamais dans ta vie spirituelle ?» Je vais tous les jours. Mais c'est pour ça que j'ai besoin de lire et de passer du temps avec Dieu. Hébreux 11, la galerie des héros, on l'appelle souvent. « Par la foi, un tel a fait ça. Par la foi, un tel a fait ça. » N'oublions pas que la Bible regorge d'exemples de personnes qui n'étaient pas meilleures que nous, pas pires que nous, qui étaient humains comme nous, mais qui ont eu les bonnes attitudes au bon moment. Et si vous voulez, le meilleur exemple dans la Bible de quelqu'un qui se repent complètement, psaume 51. David, il est pris en flag par Nathan, par rapport à Bathsheba, son adultère, son assassinat, quand même assez grave on va dire. Et là, il aurait pu dire clairement à Nathan, écoute, je suis le roi, tais-toi. Et je m'entête. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à genoux, il a écrit un magnifique psaume qui parle d'humilité et d'humiliation, le psaume 51. Et au verset 12, il dit « Seigneur, renouvelle en moi un cœur pur, crée en moi un esprit bien disposé. » Et là, je vais terminer un livre de M. Yancey qui parle de deux fois possible, la foi contractuelle ou la foi relationnelle. La foi contractuelle, c'est « je suis chrétien, entre guillemets, mais tant que ça va bien, quand ça va mal, c'est de la faute de Dieu, donc je m'éloigne. » Et la foi relationnelle, c'est « j'essaye d'être chrétien tout le temps, peu importe ce qui m'arrive. » C'est la vie chrétienne. La définition de la vie chrétienne, c'est ça. C'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'on a besoin de chacun de nous ici, des prières pour les uns les autres. On a besoin de prier individuellement. On a besoin de lire la parole et d'avoir cette volonté de progresser et tout, absolument tout, par la grâce de Dieu. Et pour terminer, juste un... C'est pas le titre d'un ouvrage, c'est un sous-titre. Et c'est marrant comme l'esprit conduit, parce qu'on a chanté deux chants tout à l'heure en référence avec ça. Et des versets que tu as choisis aussi. C'est un livre de Max Lucado qui s'appelle « Comme Jésus ». Et le sous-titre, c'est « Dieu t'aime comme tu es, mais il refuse de te laisser tel quel. Il veut te transformer, et ton cœur, pour ressembler de plus en plus à Jésus. » Donc n'oublions jamais ça. Je vais prier pour terminer. Seigneur, merci parce que avec l'envoi de ton Fils unique, chéri, et tout ce qu'il a accompli sur terre, ton plan parfait s'est accompli pour nous. On ne mérite rien. On est tellement infidèle par rapport à ta fidélité. On est tellement critique, on manque tellement d'amour. Et pourtant, tu te penches sur nous. Et lorsqu'on essaye d'imaginer, même si c'est impossible, toutes les souffrances psychologiques, physiques, spirituelles que tu as eues sur la croix, ben, c'est pas grand-chose d'essayer de rester attaché à toi tous les jours. Et pourtant, on est amnésique spirituellement et on oublie, on est tellement faible. On a besoin de toi, Seigneur, que tu puisses nous aider à nous remettre dans la bonne direction tous les jours, ne jamais oublier de se repentir, ne pas penser à son nombril, mais penser à ton cœur, à toi. Et à nous vraiment à avoir l'audace de la foi, à mettre notre espoir en toi et arrêter de croire tous les mensonges que le monde nous propose jour après jour, et ça, peu importe notre âge. Et je te remets tout ça dans ton puissant Saint-Nom. Amen.